Chapitre 35. Lundi 21 août 1989, 15e jour de vacances, ciel bleu de fumée sans feu. Ce matin, je vais pas vous écrire. Je vais juste recopier. Vrai de vrai. C'était dans le corps ce matin d'aujourd'hui. Toujours cette affaire du patron niçois qui a coulé à pic avec du béton plein les poches, ou son or, je sais plus. Une histoire qui justement tombe à pic, d'après les journalistes. C'est pour ça que ce coup-ci, je préfère recopier, parce que je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a tout un dossier sur les acquisitions du Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres, sur les procédures sans fin autour des plans d'occupation des sols, sur le périmètre exact des zones de protection de la biodiversité. Après avoir lu le corps ce matin de ce matin, je ne sais pas si je dois encore davantage aimer mon papé, ou avoir tout de même un peu peur de lui. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Extrait corps ce matin du 21 août 1989, La bonne étoile du berger. Qui est Kassanou Idrissi? Propos recueillis par Alexandre Palazzo. Kassanou est le nom le plus ancien pour désigner un chêne. Il vient du Celte, de l'Occitan, du vieux Corse. En 1926, le regretté Pancras Idrissi a offert ce prénom à son fils unique, en hommage au chêne tricentenaire qui pousse au centre de la bergerie d'Arcanou, pour que son fils en tire sa force, sa longévité, ses racines. 63 ans plus tard, les vœux du vieux patriarche de la dynastie Idrissi se sont exaucés, sans doute au-delà de ses espérances. Kassanou Idrissi est devenu l'une des figures emblématiques de la Balagne, l'une des plus influentes, même s'il demeure une personnalité inclassable et atypique. Le berger d'Arcanou n'est maire d'aucun village, sa famille ne compte aucun conseiller régional, aucun député, ne préside aucune association. Kassanou se présente comme un simple berger, un berger qui règne sur 80 hectares, un désert, aux portes de Calvi, seulement peuplé d'un camping et de trois villas. Kassanou Idrissi est un solitaire. Le paisible retraité à carrure d'athlète vous accueille dans sa bergerie d'Arcanou avec la plus délicate des hospitalités. Pendant que sa discrète épouse, Lisabetta, vous prépare un copieux goûter, il vous emmène faire le tour du propriétaire pour vous expliquer qu'à perte de vue, ou quasi, tout est à lui. Et la seconde suivante, il vous explique que ce tout équivaut à rien. Que rien ne lui appartient en réalité, pas plus que le désert n'appartient aux Touaregs ni la steppe aux Mongols. Qu'il n'en est que le gardien. Cette terre, il n'en a pas hérité, car hériter voudrait dire qu'il la posséderait, qu'il pourrait la céder, la vendre, la découper en morceaux, non ? Kassanou Idrissi vous explique, en vous montrant du bout de son bâton le sommet du Kapou Diabeta, que cette terre lui a été confiée, qu'il en a simplement la responsabilité. Ensuite, alors que Lisabetta vous apporte un thé à la châtaigne, des fiadone et des canistrelli aux amandes et aux raisins, Kassanou déplie sur la table de vieilles cartes, des titres de propriété, certains remontant au temps de Pascal Paoli, de San Piero Corso ou de Napoléon Bonaparte, et vous déclame que cela n'a guère d'importance. Selon lui, les récents documents d'urbanisme que l'administration prend plaisir à accumuler n'ont pas davantage de légitimité. Il ne s'agit au fond que de frontières tracées par les hommes, de traits tirés à la règle sur des grandes cartes de papier, comme si les hommes de passage sur cette terre pouvaient posséder ne serait-ce qu'un gramme de sable, une goutte d'eau ou un brin d'herbe et l'emporter dans l'au-delà. Comme si, au cas où, par le plus grand des miracles, il existerait un paradis, on pouvait y entrer avec ses valises. Comme si la terre n'allait pas continuer d'exister après nous. Car si l'eau et le feu, les racines des arbres et les ailes du vent sont capables de venir à bout des plus grandes murailles, de lézarder les tours génoises et de fissurer les ponts de pierre au-dessus des torrents, qu'ont-il à faire de ces traits tracés au stylo sur du papier ? La nature se fout bien du patrimoine qu'on prétend protéger en son nom. Alors, s'enflamme le berger en moulinant des bras, tandis que sa femme protège les verres et les tasses, tracez des zones, des périmètres et des frontières autant que vous voulez. Partagez-vous les océans et les banquises, le ciel et les étoiles, les montagnes et les rivières. Décidez à qui appartient chaque caillou, chaque noyau d'olive et chaque pétale d'encolie si cela vous amuse, vous donne de l'importance, offre un sens à votre vie. Mais vous ne changerez rien à cette seule vérité. La terre nous est confiée. Ma terre m'est confiée. Et aucune loi des hommes ne me fera jamais renoncer à mon devoir de la rendre dans l'état où je l'ai trouvée. Corse matin. Justement, monsieur Idrissi, puisque vous évoquez la loi des hommes, Les journaux parlent beaucoup ces derniers jours de l'assassinat de Drago Bianchi. Cet entrepreneur niçois qui avait pour projet de bâtir un hôtel de luxe sur les hauteurs de la pointe de la Rebellata et qui se vantait dans les colonnes de ce même journal, il y a moins d'un mois, d'avoir obtenu le soutien du préfet, de la région et du comité régional du tourisme. Que vous inspire cet homicide ? Rien de plus qu'à la plupart des Corses d'ici. Je n'ai pas pleuré à l'annonce de sa disparition. Je n'ai pas envoyé de couronne à son enterrement. Et d'ailleurs, je ne crois pas me souvenir que ses amis préfets, présidents de région ou du comité régional du tourisme, aient non plus fait le déplacement. Il faut se méfier de ce qu'on lit dans les journaux et des protections qu'on prétend posséder. Voici ma réponse, mais peut-être y avait-il un sous-entendu dans votre question. Si c'est le cas, j'en suis désolée, c'est qu'elle était mal posée. Et inutile. Sourire. Vous ne croyez tout de même pas que je vous avouerais, à l'heure du goûter en dégustant des canistrelli préparés par ma femme, que c'est moi qui l'ai assassinée. Corse matin. Bien entendu, monsieur Idrissi. Oublions cette affaire et restons-en aux idées, aux principes, aux valeurs. Jusqu'où pourriez-vous aller pour protéger votre terre ? Vous pourriez aller, je vais être un peu brutal, jusqu'à tuer ? Pourquoi vous trouverais-je brutal ? Vous me reposez la même question, non ? Nouveau sourire. Et sans vouloir vous vexer, elle est toujours aussi mal formulée. Je ne souhaite évidemment la mort de personne. Comment pourrais-je souhaiter qu'un type soit broyé en pleine mer par les 500 tonnes d'un ferry, se fasse abattre à la terrasse d'un café devant sa fiancée, qu'une bombe explose sous sa voiture juste après qu'il a déposé ses enfants à l'école ? Qui pourrait souhaiter, approuver, commander de tels malheurs ? Certainement pas un vieil homme qui n'aspire qu'à vivre en paix. Ne cherchez pas le mal de mon côté. Cherchez-le du côté des hommes qui poursuivent une autre quête, un besoin étrange de pouvoir, d'argent, de femmes. Ici, en Corse, le pouvoir, l'argent, les femmes dépendent souvent des biens que vous possédez, des biens fonciers, je veux dire, de la terre, de la pierre. Alors si ces hommes, plutôt que de se contenter de ce que la vie leur a confié, préfèrent convoiter, s'emparer, spéculer, qui puis-je ? Qui puis-je s'ils ne conçoivent d'intérêt à leur vie que si elle est mise en danger, comme ces fous qui pratiquent des sports à haut risque ? S'ils croient pouvoir défier l'ordre des choses ? Accuse-t-on la vague d'avoir tué le surfeur inconscient ? La pierre pourrie d'avoir trahi l'alpiniste imprudent ? Le virage en épingle d'avoir tué le conducteur impatient ? Corse matin. Merci, monsieur Idrissi. Moi aussi, je crois pouvoir lire entre vos mots. Face à tant de cupidité, vous n'avez pas peur, vous ? Vous qui possédez, pardon, qui vous êtes vu confier autant de biens, qu'on veuille vous en déposséder ? Et, plus prosaïquement, qu'on puisse vouloir vous tuer ? Non, monsieur Palazzo, non. Bref silence. Je pourrais légitimement avoir peur si je possédais quoi que ce soit que je puisse perdre. Mais puisque je ne suis qu'un gardien, si je venais à tomber, un autre prendrait ma place, et un autre ensuite, ou une autre d'ailleurs. Un ami, un proche, n'importe quel homme ou n'importe quelle femme qui partage les mêmes valeurs, le même honneur. Des gens de ma famille. Et j'inclus dans ma famille les gens qui ne sont pas de mon sang, qui sauraient ce qu'ils auraient à faire si un jour un malheur m'arrivait. Long silence. Tout comme je sais ce que j'aurais à faire si un jour le malheur les touchait. Corse matin. La vendetta ? Vous êtes d'accord ? Je peux résumer votre réponse par ce mot ? La vendetta ? Mon Dieu, qui vous parle de ça ? Soupir. Qui parle encore de ça, à part vous, les journalistes ? Les meurtres dont vos colonnes font la publicité sont commis par des bandits, des voyous, des mafieux pour quelques billets de banque, quelques grammes de drogue, quelques voitures volées. En quoi cela me concernerait ? En quoi cela concernerait un retraité isolé dans sa bergerie qui ne sait même pas à quoi peuvent ressembler une barrette de cannabis, une prostituée yougoslave ou un carton de Minitel tombé d'un conteneur sur le port d'Ajaccio ? La vendetta ? Mon Dieu, c'est bon pour les touristes qui lisent Colomba ! Retour du sourire. Tout est beaucoup plus simple. Ne touchez pas à ma terre, ne touchez pas à ma famille. Et alors je serai le berger le plus pacifique, le plus inoffensif du monde. Corse matin. Et sinon ? Si on touche à votre terre ou à votre famille ? Sinon quoi ? Votre question est une nouvelle fois mal formulée, monsieur Palazzo. Rire. Cela équivaut à demander à un général d'état-major si, en cas d'attaque, il appuierait sur le bouton rouge pour faire exploser la bombe nucléaire et, avec elle, la terre entière. Il ne vous répondra pas, car ça n'arrivera pas. Comprenez bien, je ne crois pas que les gens aient envie de toucher à ma terre, encore moins de toucher à ma famille. Et si votre journal peut servir à quelque chose, c'est au moins à ce que vos lecteurs se souviennent de cela. Tenez, reprenez des canistrelli. C'est pour vous que ma femme les a cuisinés. Corse matin, la bouche pleine. Merci, monsieur Idrichi. La fin, la dernière réplique, et l'avant-dernière aussi, c'est moi qui les ai ajoutées. Ça aurait été drôle, vous ne trouvez pas, si le journaliste avait vraiment osé l'écrire. Mais je crois que le journaliste, une fois sa dernière question posée, avait plus envie de se sauver à toute vitesse que de reprendre un des gâteaux de mamie. Il referma le cahier. Un retraité inoffensif. Il y avait de quoi éclater de rire.